Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, suite de notre marathon fou, 20 previews en 20 jours, un épisode quotidien du Dunk Hebdo NBA Podcast qui se devait être de 20-25 minutes au début, et on a un peu exagéré, clairement vous l'avez vu sur vos plateformes de podcast et sur YouTube, on est un peu plus au-dessus en ce moment et je pense que ça sera le cas aussi aujourd'hui. On va parler aujourd'hui des Cavs, on l'avait déjà teasé normalement, si vous avez lu la description, ou si vous avez tout simplement, si vous nous regardez sur YouTube, ou si vous avez très bien écouté un des précédents épisodes, vous savez qui m'accompagne aujourd'hui, c'est Madiane. Comment ça va Madiane? Tu te voilà bientôt délesté de toutes tes équipes, est-ce qu'on se sent plus léger?
Oui, c'était la dernière à préparer, donc c'était intéressant. En plus, petite rencontre avec mes Lakers que j'avais aussi suivi, donc c'était aussi intéressant à regarder aujourd'hui et voilà, on est prêt à clôturer mon chapitre d'observation.
Eh bien, clôturons ce chapitre. Avant ça, je suis obligé de vous le rappeler. N'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, que ça soit Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast, etc. Si vous pouvez nous mettre 5 étoiles, c'est toujours bien, surtout qu'en ce moment, on aimerait bien voir les 5 petites étoiles augmenter, vu qu'on sort beaucoup de contenu en ce moment. Et puis, on vous rappelle de nous suivre également sur Twitter. Maintenant, je pense qu'après plusieurs épisodes, parce que je ne pense pas que tous les auditeurs aient écouté tous les épisodes, et on ne vous en veut pas, parce que même dans l'équipe, moi, si je n'avais pas à faire le montage, je ne sais pas si je les aurais vraiment tous écoutés, tellement il y a de contenu en ce moment. Passons, ils méritent tous d'être écoutés. La trame débute toujours par le résumé de la saison 2023-2024. Et je pense que là, en comparaison des derniers épisodes, Madiane, ça va, c'est calme. En vrai, c'est juste dans la saison qu'il s'est passé des trucs. Il ne s'est pas passé de trucs avant. Parce que moi, j'ai eu pas mal d'équipes ces derniers temps où il s'est passé des trucs avant.
Non, c'est dans la saison. Mais le problème de ces cas, c'est que dans la saison, ça n'augure rien de bon. Du coup, c'est nos amis de Cleveland, en fait, ils ont commencé la saison un peu dans un régime moyen. Ils sont arrivés finalement à la fin de l'année avec 18 victoires, 15 défaites, mais surtout, du coup, deux principales absences, celle de Mobley et celle de Garland. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'intervalle de ces absences, ils tapent en janvier, à partir du début d'année jusqu'au All-Star Game, l'une des plus belles séries finalement qu'il y a eu dans les équipes. J'ai parlé de la série des New York Knicks en janvier, mais ils sont passés du coup en fin d'année de 18 victoires, 15 défaites à 36 victoires, 17 défaites, c'est-à-dire que dans l'intervalle, ils ont perdu que deux fois jusqu'au All-Star Game. Donc série extrêmement impressionnante de leur part, avec notamment un Donovan Mitchell qui a pris les choses en main en l'absence de ses compères du 5 majeur. Le problème, c'est que on parlait d'équipe théorique avec les Knicks et que avec les retours, on aurait pu penser que l'équipe s'améliorait, mais l'équipe ne s'est pas améliorée. Depuis l'All-Star Break, ils sont à 10 victoires, 15 défaites, ce qui est extrêmement inquiétant. D'avoir ce type de dynamique en arrivant en post-saison. Et pourquoi est-ce qu'ils ont ce genre de choses? On en parlera. Mais notamment, il y a de grandes inquiétudes autour du genou de Donovan Mitchell qui semble nécessiter beaucoup plus de repos que prévu. Et j'écoutais récemment du coup un petit podcast sur le sujet avec Brian Windhorst qui en parlait sur le fait que on lui a injecté du coup du plasma riche en plaquettes pour soigner sa contusion, mais que c'est un pansement sur une jambe de bois et que ça va nécessiter peut-être pas forcément une opération, mais surtout beaucoup de repos, ce dont tu n'as pas l'occasion là en cette fin de saison.
J'ai l'impression que c'est avec ces Cavs, il y avait eu, quand on avait fait le post-mortem la saison dernière, il y avait eu la question de quelle est la complémentarité entre les joueurs, et elle avait été commencée à, on avait commencé à la trouver au fil du temps entre le quatuor. Cette année, l'objectif, c'était de mettre en place cette continuité et surtout de réussir à trouver les automatismes. Et comme tu l'as un peu dit, Madiane, ça n'a pas pu être fait parce que la plupart du temps, ils en ont eu un blessé ou un beaucoup moins fort. Donc, est-ce qu'on entame, et c'est un peu du coup la même question que je t'avais posée avec les Knicks, c'est ça qui est assez intéressant, et que je pose à beaucoup avec le temps, c'est peut-être une question qu'on aurait dû poser après le bilan, c'est est-ce qu'ils entament les playoffs avec des certitudes, ces Cavs?
Non, pour moi, les certitudes sont absentes de cette équipe des Cavaliers, notamment, fait choquant, l'équipe des Cavs est meilleure sans Mobley dans les statistiques. Sur Cleaning the Glass, tu vois le on-off de Mobley, tu ne comprends pas pourquoi, parce que il y a d'autres facteurs, c'est pas des facteurs terrain, c'est que quand il était pas là, c'est le moment où Donovan Mitchell avait un peu pris en main l'équipe et qu'ils ont fait l'extraordinaire série, ce qui explique un peu pourquoi on a un effet statistique autour de Mobley. Mais quand tu vois ce genre d'effet statistique, tu vois bien que finalement la synergie n'a pas pu avoir lieu dans cette équipe, qu'ils ont pas pu travailler collectivement ensemble, et surtout la dynamique de fin de saison, c'est quelque chose qui est extrêmement essentiel. Quand Boston est allé en finale NBA, ils avaient été un peu moribonds beaucoup de temps dans la saison, mais la série de fin de saison laissait penser que ce serait une équipe dangereuse en playoff. Là, la série de fin de saison m'inquiète. Tu m'avais dit quand on parlait d'Enix que tu pensais que les Knicks, ça serait devant les Cavs au niveau des playoffs. Au début, je pensais que non. Et puis, en réexaminant le cas pour préparer cet épisode, j'ai tendance à plutôt penser que oui, maintenant.
C'est pour ça. C'est un message à toute l'équipe d'Un Kebdo. C'est pour ça, parce que j'ai chopé la réputation d'un petit dictateur. Rappelons ça rapidement dans cette preview, petite parenthèse. On commence à parler du DH20 entre nous parce que ce sont bientôt les playoffs et j'ai plus ou moins interdit les discussions DH20 dans l'équipe en disant qu'on s'influence trop. On fait souvent le reproche de trop nous influencer et le fait qu'on soit trop d'accord entre nous. Et la preuve en est, c'est qu'on influence les autres dans notre jugement. Donc, merci Madiane d'apporter cette preuve. J'en suis sûr que tes petits camarades te détesteront. Du coup, on va commencer Madiane avec la première faiblesse. Et ça me fait beaucoup rigoler parce que la dernière fois qu'on a enregistré ensemble sur les Knicks, tu m'as dit, je sais pas comment je vais le placer, mais il faut que je le place. Donc, parle-nous de J.B. Bickerstaff.
Alors, c'est un coach que, déjà de base, j'apprécie pas forcément. Moi, aucun de ses passages m'a jamais convaincu. Le voir avec cette équipe des Cavs, avec beaucoup de choses à faire et beaucoup de synergies à trouver, je trouve que le job est très compliqué et que c'est pas l'homme de la situation. Mais, au-delà du délit de faciès, moi, je repense l'an dernier. L'an dernier, ils se sont rendu compte de quoi? Ils se sont rendu compte en plein playoff que, en fait, notre spacing, il est pourri. Et les Knicks les ont torpillés ainsi. Et en fait, ils se sont fait pourrir par une équipe des Knicks, tout simplement parce que comme leur spacing était pourri, les Knicks, ils étaient très tranquilles à les attendre à l'intérieur avec le système Thibodeau. Et ils se sont fait punir très rapidement. Parce que au-delà du Donovan Mitchell Ball qui est extraordinaire à chaque fois, je trouve dans cet exercice, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, tu t'es rendu compte de ça. Et l'une des options qu'ils auraient pu notamment utiliser, c'était Cedi Osman, mais Cedi Osman pas là, pas assez synergisé avec les titulaires, etc. Et donc on se retrouve avec le problème avec aucune solution parce que t'as rien testé, t'as rien vérifié, t'as rien voulu faire, donc t'as un plan A et t'as échoué avec ton plan A et t'es éliminé. Moi, ce qui me dérange cette année, c'est notamment un cas qui symbolise très clairement le manque de préparation de playoff de notre ami sur le banc. C'est notre ami Niang. Alors, à ton avis, notre ami George Niang, il a joué combien de temps? Enfin, il est devant qui en termes de minutes jouées au sein de cet effectif?
Bah, tout le monde, sauf Jarrett Allen.
Tout le monde est un peu plus, mais on n'est pas loin. C'est que du coup, on a Devon George Niang en minute jouée. On a effectivement Allen, on a Struss, etc. Mais notre ami, il a cumulé 1678 minutes. Maintenant, Ben, explique-moi comment il va jouer en playoff. Parce que moi, je ne sais pas.
Il joue pas, tout le monde sait qu'il joue pas.
Moi, je ne vois pas, je ne comprends pas comment il va jouer. Je regarde l'effectif, je regarde les stats on-off. La défense des Cavs chute dramatiquement dès qu'il fout le pied sur le terrain. Et on n'est qu'en saison régulière. Alors, je suis sur le banc. Je vois ça. Je me dis, bon, faut préparer la post-season. Peut-être que Niang, c'est pas une bonne option. Je sais pas. Peut-être. Il va y aller avec. Il va se rendre compte très vite que c'est même pas la peine d'essayer de lui faire poser un demi-doigt de pied sur le parquet parce qu'il va se faire cibler. Et c'est pas contre lui. Il va se faire cibler. Donc moi, un coach qui voit ça, qui envoie le TGV dans le mur et qui réagit pas, comment tu fais toutes tes rotations basées sur lui? Parce que c'est vraiment, il est essentiel dans les rotations des Cavs. Il est importantissime. Comment tu te dis, ce joueur va m'aider en post-season. On a reproché quoi l'an dernier au Cavs? On n'a pas reproché à saison régulière, on a reproché à post-season. Tu dois préparer ce genre d'événement. Et ça, c'est symptomatique d'un coaching staff qui ne prépare pas sa post-season. Je sais pas ce qu'il espère. Je pense qu'il se dit qu'en saison régulière, ça fait le travail parce qu'il essaye d'avoir un bon seeding. Mais bon seeding, si t'as pas préparé de plan B, tu vas pas le préparer le jour J.
Là où je te rejoins, je pense que alors, George Niang, déjà, faut saluer l'artiste qui parvient toujours à s'incruster dans des rotations d'équipes qui jouent les playoffs à l'Est. C'est bravo. Bref, sur le simple shooting, je pense. En fait, par rapport à Bigger Staff, le manque de synergie entre les quatre et globalement le manque d'ingéniosité de cette équipe, elle est en grande partie à lui mettre sur le dos. Et c'est là où les cris des fans des Cavs, je les comprends encore mieux en ayant vu un peu cette équipe. Quand l'année dernière, suite à la défaite un peu humiliante quand même sur le premier tour, ils avaient demandé la tête de JB Bickerstaff, tu comprends mieux pourquoi cette année, Darius Garland est en extraordinaire difficulté. Je trouve qu'il y a très peu de mécanismes qui sont mis en place. Il y a très peu de... Il n'arrive pas à faire en sorte que son joueur qui est derrière Darius Garland soit remis en place, soit remis en confiance avec des systèmes où il sera un peu plus off-ball, etc. C'est un coach qui est peu inventif, je pense qu'on est d'accord. Et je pense qu'il a encore une fois qu'il va peut-être sauver sa tête en surfant sur ce bon stretch où ils ont été bons dont tu as parlé, Madiane, en se disant « Ah, bah il y a eu ce moment-là », mais sauf que ce moment-là est simple comme bonjour. Il fait juste jouer Donovan Mitchell avec ce qui lui reste de l'effectif, ce qui sont en grande partie des shooters avec Jarrett Allen en poste 5 et ça leur a permis d'être beaucoup plus efficaces.
Non, et Darius Garland, il revient dans la rotation du coup fin janvier. Je sais pas, je ne même dans le jeu il est pas bon, on fait rien pour lui faciliter le retour. On sent qu'il a du mal à trouver la mire, notamment du coup près du cercle ou dans les rares moments où il a pas le choix à mi-distance. Du coup finalement les seuls moments où il est légèrement efficace c'est derrière la ligne à 3 points où des fois il a tendance à vouloir camper parce qu'il a pas de il a pas l'air de trouver la solution et parce qu'il a pas d'espace. Il n'a pas d'espace et qu'on lui en aménage pas et que ça a jamais été le joueur le plus physique sur l'arrivée au cercle. Mais du coup, on en parlera. Mais la réussite au cercle des Cavs, si t'as que Donovan Mitchell qui réussit à pénétrer à y aller, ça va être très difficile.
Eh bien, enchaînons, Madiane, avec ton deuxième point à mettre en avant et c'est cette faiblesse, c'est celle d'une équipe qui est en grande difficulté sur ces dernières semaines. C'est jamais bon d'arriver dans un mauvais momentum en playoff.
Non, mais on est même sur, je pense, une performance extrêmement inquiétante parce que moins 4,6 de net rating depuis l'All-Star break, ça fait partie des pires équipes de la Ligue, et même parmi tous les playoffables, même les Sixers sont devant. On en a parlé des Sixers au 4 quarts. Même les Sixers sont devant. Et ça, c'est d'une c'est inquiétant. Mais pourquoi c'est inquiétant? Parce que là, en fait, l'un des trucs qui marchait le mieux, Donovan Mitchell, n'est plus à ce niveau stratosphérique parce qu'il doit reposer son genou, parce qu'il doit s'économiser. T'as fait revenir tout le monde. Là, dans le dernier match, il manquait que Isaac Okoro. Hein. Théoriquement, t'as quasi tout le monde. Et non, ça le fait pas. La synergie est pas bonne. Défensivement, j'avais parlé lors du 4 quarts de Jarrett Allen, qui avait été extrêmement impressionnant dans le stretch de victoire des Cavs. Là, on retrouve pas la même synergie parce que maintenant, ils sont deux à gérer et j'ai l'impression que Mobley et Allen, en fait, ça marche pas forcément dans ce stretch aussi étonnant que ça puisse paraître parce que je pensais qu'ils avaient réussi à trouver l'an dernier une certaine synergie. Là, ça va plus du tout. Et défensivement, ça a chuté. Offensivement, c'est trop dépendant de Donovan Mitchell, donc c'est pas bien actuellement. Moi, je suis extrêmement inquiet. Moins 4,6, c'est pas un peu mauvais. C'est vraiment pas bon du tout. Ils sont 21e off rating et 24e defensive rating sur la période.
C'est celui-ci qui fait mal.
C'est comment ta défense est passée de bonne, parce que la défense était bonne, ils avaient l'une des meilleures défenses de la ligue pré-All-Star break. Comment ta défense est passée de vraiment très bonne à très mauvaise d'un seul coup? Ils avaient le deuxième defensive rating avant. Sur la période, ils sont 24e. Comment c'est possible?
Il y a beaucoup ce truc par rapport aux Cavs que j'ai lu de la part de beaucoup d'observateurs, c'est que vraiment quand tu prends les quatre, les on-off des quatre ensemble, ça va. Le problème, c'est qu'en gros, les quatre ont pratiquement jamais été cette saison en bonne santé, tous en même temps sur un stretch de longue durée. Ce qui fait que en réalité, on arrive... Et d'où la première question, la deuxième question que je t'ai posée, Madiane. On arrive à un moment où il y a peu de certitude. Moi, c'est clairement l'aspect défensif qui m'inquiète beaucoup parce que normalement, la défense, c'est un peu c'est la bouée de sauvetage de cette équipe. C'est ce qui lui a permis d'être ultra dominante la saison dernière avec une protection de cercle élite, avec une capacité qu'a Evan Mobley à jouer beaucoup dans l'aide et à être très bon aussi là-dessus. Et on retrouve plus ça. Ils se font beaucoup, beaucoup avoir de ce que j'ai vu. Alors, j'étais pas le préposé aux Cavs. Du peu que j'ai vu des Cavs, le problème, c'est qu'ils se font toujours atomiser sur le point of attack. Ils ont plus l'arme, la double lame que sont Mobley et Allen sont un peu moins en dessous. Et du coup, le fait d'avoir Garland qui est vraiment en difficulté et un Mitchell qui est à moitié blessé les rend encore plus vulnérables aux pénétrations, etc. La perte d'Isaac Okoro, que j'aime beaucoup critiquer, qui est un peu une de mes têtes de turc, soyons honnêtes, défensivement, ça reste un joueur utile, qu'ils envoient souvent sur un match-up compliqué. Tu ne l'as pas ces derniers matchs, mais quelques derniers matchs de mémoire, mais ça sera vérifié avec toi, Madiane. Donc, c'est une équipe qui peut pas se permettre ça. Qu'ils soient en difficulté offensivement, ça peut se comprendre. Qui sont en difficulté défensivement, je pense qu'on est d'accord là-dessus, Madiane, c'est ça qui est vraiment inquiétant, c'est censé être leur assurance-vie.
Non, et cette assurance-vie, en gros, les clés de la défense des Cavs, c'est quoi finalement quand on analyse, c'était côté point of attack, ils ne se faisaient pas autant torpiller qu'avant, parce que même Donovan Mitchell faisait des efforts exceptionnellement cette saison, et ça, on l'avait souligné à un moment dans la saison, et c'était quelque chose qui leur faisait du bien. Et derrière, ils avaient, notamment dans le stretch de victoire, un excellent Jarrett Allen qui, en fait, lisait extrêmement bien ce qui se passait, qui coupait l'accès au cercle, et finalement, il concédait pas beaucoup au cercle, il concédait pas beaucoup dans le mid-range, et même à 3 points, c'était très dur de les prendre, parce que, notamment, c'était l'apport de Mobley. Mobley arrive à compenser ces aspects-là et c'est son avantage, ce qui lui permet de jouer avec Jarrett Allen, c'est qu'il permet de compenser sur ses rotations parce qu'il est efficace. Là, j'ai l'impression que ils avaient trouvé une formule qui marchait, mais que comme la formule qui marchait était sans Mobley, il rebricole, mais il retrouve plus la synergie d'antan. Et moi, je suis extrêmement inquiet et du coup, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus, comme avant, à verrouiller l'accès au cercle. Et ça, pareil, c'est de nouveau inquiétant parce que quand t'as le personnel que t'as, verrouiller l'accès au cercle, normalement, ça devrait être plus simple, mais tu dépends beaucoup de ce qui se passe sur les extérieurs, et sur les extérieurs, ça commence à tanker. Alors oui, il y a les blessures, mais ça va être difficile, là, les playoffs, si tu n'arrives pas à arrêter les gros guards. Notamment, imaginons un match-up face à une équipe d'Enix que je connais bien. Si tu as du mal face à un garde un peu fort, ça va pas le faire, là.
Enchaînons, Madiane, si tu as quelque chose à rajouter. Je ne crois pas, on en a pas mal parlé. Sur les tirs au cercle, et tu as écrit « danger ». Vas-y, Madiane.
Danger, tout simplement, parce que justement, sur les tirs au cercle, ça a été... globalement, les stats sont... positif. Si on regarde l'équipe au global sur la saison, on regarde ce qui se passe au cercle, ils accordent finalement très peu de capacité à réussir ces tirs au cercle. Globalement, les adversaires finissent environ 33,5% du temps au cercle. Mais par contre, en termes de réussite, ils sont limités à la troisième pire réussite de la NBA, tous les adversaires des Cavs. Donc, on peut se dire, excellent, Madiane, on les envoie vers le cercle, on les cueille avec nos big men, etc. Sauf que justement, c'est la stat qui, là, tout doucement, commence à fléchir. Sauf qu'en fait, c'est ça qui en faisait une bonne défense, parce que, quand tu regardes, sur les 3 points, c'est pas une excellente défense à 3 points. Ils concèdent quand même pas mal de tirs ouverts. Ils sont dans la moyenne de la ligue. Là où ce qui les rendait très bons, c'est que sur ces tirs-là, ils envoyaient les adversaires sur beaucoup de tirs au cercle, mais ils arrivaient très bien à la contester. Et là, ils ont un mal fou. Le Allen, il est plus aussi impérial qu'avant sur la gestion du drop. Ils se font prendre sur des lobes alors que vraiment... Il y a eu un moment de la saison où prendre les Cavs de dos sur des lobes, c'était impossible. Mais en fait, c'est parce que quand t'as le feu du côté du drive, plus qu'avant, tu es moins en gestion et du coup, tu laisses énormément d'espace de l'autre côté du terrain. Et là où ils étaient très bons pour couper les lignes de passe parce que c'était beaucoup plus resserré autour du porteur de balle, là, le porteur de balle, il a l'espace de trouver les solutions et il les trouve. C'est devenu de plus en plus compliqué pour eux sur la défense au cercle. Et si tu abordes les playoffs sans ton atout numéro 1 défensif, c'est ce qu'on se dit. Leur defensive rating, il n'a pas chuté à cause de la défense à 3 points ni du mid-range, il a chuté au cercle. Et c'est ça qui va être très inquiétant pour cette équipe.
Parce que vraiment, c'est là où... Alors c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a suivi l'équipe du coup de près, parce que moi, c'était quelque chose que j'avais... aperçu, mais le fait que même toi t'insistes dessus, Madiane, alors que c'est quand même rappelons que c'est censé être le point fort de cette équipe, c'est assez, c'est même très très inquiétant. On avait déjà un petit peu parlé de ce point-là, du coup je l'avais un petit peu grignoté. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter là-dessus, Madiane?
Oui, parce qu'on va parler du côté offensif des tirs au cercle. C'était une double stat, c'est que du coup, offensivement, ils y vont pas. Ils n'ont plus sur les drives au cercle aussi. Pourquoi ? Parce que ce soit Garland ou Mitchell, les deux ont l'air d'être en délicatesse et n'y vont plus. Donc même toi, offensivement, tu perds aussi ta capacité à venir punir l'équipe adverse au cercle. C'est les tirs les plus rémunérateurs de la NBA. C'est au cercle et à 3 points. Mais le cercle, c'est le premier facteur. Et pareil, offensivement au cercle, c'est là où il m'inquiète. C'est là où je parle justement de Garland qui... ne traînent pas beaucoup autour du cercle, mais ils y allaient déjà peu. Ils étaient moyennement efficaces, ils y allaient quand même. Ils y allaient sur 35% de leurs tirs. Mais pareil, la stat descend au fur et à mesure de la saison. Et là, sur le dernier stretch, c'est catastrophique. Et l'efficacité, pareil, elle descend. Donc, tu y vas moins, ton efficacité descend. Ils étaient très disciplinés à pas prendre de mid-range. Ils en prennent plus maintenant. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que t'abordes les playoffs vraiment où t'avais des certitudes, où j'aurais pu dire c'est une équipe très solide, etc. Mais la dynamique est absolument pas bonne et de partout. C'est préoccupant, là, cette version des Cavs.
Là, tu vois le côté négatif d'une équipe où, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais au bout de 10 épisodes, on se répète sur les profils de certaines équipes. Le fait d'avoir très peu de joueurs qui sont capables de s'octroyer l'accès au cercle, c'est un problème. C'est-à-dire que qui dans l'équipe est capable de d'aller au cercle de son propre gré, bah, en fait, c'est Donovan Mitchell et peut-être Caris LeVert qui le fait pas, mais qui est un des seuls qui peut peut-être créer un décalage. Et encore, je sais que la simple évocation du nom de Caris LeVert doit faire donner des maux de tête à certains fans des Cavs, mais il y a très peu de joueurs en fait qui sont capables d'aller au cercle. Donc le fait est que le régime de tir est modifié par l'absence de mecs capables de vraiment créer des décalages. Parce que si t'as un Donovan Mitchell pas là ou diminué, et t'as un Darius Garland qui est lui aussi moins capable de créer des décalages en délicatesse avec son tir, il y a personne sur la base arrière pour créer des décalages. Et le secteur des forwards est plutôt des finisseurs. Donc, le résultat qu'on a actuellement. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur ce double cercle, Madiane?
Non, parce qu'on va continuer sur là-dessus. C'est vraiment ma marotte avec cette équipe, donc on va poursuivre là-dessus.
Oui, parce que du coup, quand j'ai relu, du coup, quand tu m'as dit il y a un double cercle, je fais mais attends, mais j'ai pas compris, c'était quoi le point positif du coup? Alors c'est quoi le point positif du coup, Madiane? Le motif d'espoir de cette équipe?
C'est que j'ai revu du coup en préparant tout le stretch de janvier là-dessus et que j'en viens à une conclusion, c'est que il faut limiter les minutes Mobley Allen. Je pense que c'est par là que pourrait passer la solution. C'est notamment en réintégrant plus dans la rotation un Isaac Okoro qui fait du bien défensivement, mine de rien, et en essayant de mixer les minutes et en les laissant pas spécialement longtemps, notamment dans le clutch, faites pas ça. Les deux en même temps dans le clutch, ne faites pas ça. C'est un message à l'adresse du coaching staff, on ne sait jamais, peut-être qu'ils nous écoutent. Mais si tu limites les minutes là-dedans, que tu as un peu plus de ressources, notamment avec un Isaac Okoro qui va te rendre un peu plus serein parce que tu peux l'assigner justement à des gardes qui te poseraient plus de problèmes. Alors certes, c'est un poids mort offensif, mais c'est pas grave finalement parce que ton premier objectif c'est de retrouver une défense stable. Donc moi c'est Isaac Okoro sur le point of attack le plus dangereux de l'équipe adverse, Jarrett Allen en couverture, et oui c'est soit Jarrett Allen soit Evan Mobley en drop. Et là je pense que en comblant ta faille sur les guards, en faisant attention là-dessus, plus en ayant finalement qu'une seule personne en couverture de drop, et derrière bah t'as des personnes un peu plus mobiles autour pour contester les tirs sur les ressorties de balles, je pense que tu peux beaucoup mieux t'en sortir. Et tout ce stretch le prouve, tout le stress de janvier le montre, c'était extrêmement bien. Défensivement, c'était parfait, il n'y avait pas de souci. Et Jarrett Allen, il y arrivait très bien tout seul, et je doute pas que Mobley aussi, avec sa mobilité, arrivera à faire un travail tout aussi efficace. Je pense que il y a une porte de sortie pour ces Cavs, que en fait ils ont beaucoup trop changé, mais qu'ils avaient trouvé la formule au milieu de tout ça défensivement. Offensivement, c'est une autre paire, c'est une autre affaire, etc. Mais ils doivent retrouver cette sérénité défensive. Et quand ils font ça, ils sont impériaux au cercle. Ils autorisent très peu de drive, très peu de tir. Ils contestent bien. Ils récupèrent beaucoup de ballons. Ils autorisent peu de transition aussi. C'est là où ils sont meilleurs, et je pense que c'est là le motif d'espoir, parce que je vois bien que la formule est trop compliquée à trouver là sur le peu de temps qui te reste avant les playoffs. Tu vois bien que ça part en autre boudin, c'est pas le moment de persévérer dans cette formule, parce que si tu persévères avec cette formule, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes au premier tour, elles te cueillent et t'es pas une équipe de playoff sur ce que tu... Enfin, les Cavs ne sont pas une équipe de playoff sur ce qui monte sur le terrain, et il faut vite corriger ça juste avant les playoffs.
Bah, c'est là où c'est l'ironie un peu quand tu classes les 5 des Cavs en termes de net rating, c'est que le premier, c'est le... alors, ça dépend de quel site de stats on prend, de où on met la limite, mais en gros, le meilleur 5 des Cavs cette année, ça a été celui de ce stretch dont tu as parlé, hein, c'était donc le... Mitchell, Strauss, Okoro, Dean Wade, Jarrett Allen, et qu'en réalité, quand tu regardes les staffing des stats, tu remarques que quand tu échanges, quand tu mets du Caris LeVert, du Darius Garland et du Mobley, ça peut marcher aussi. Mais qu'en fait, les deux associés, comme tu l'as sous-entendu, c'est là où ça coince. Donc ça prouve qu'il y a peut-être un truc, et c'est là où moi, je peux pas croire que le quatuor, même si certains net rating montrent que le quatuor est bon, la réalité du terrain est tout autre et on voit qu'ils sont en difficulté. Moi, je crois, moi, quand on fera le post-mortem des Cavs, j'annonce que je vais croire à la saison vraiment catastrophe, blessure, parce que ils n'ont pas pu arrêter de savoir jouer ensemble au cours des 6 derniers mois. Ils sont toujours, ils ont des séquences où ils arrivent à jouer ensemble. Le fait est que je pense vraiment, pour moi, le souci, il se trouve sur la traction arrière. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maya, mais c'est le fait qu'en gros, ne pas avoir le vrai Darius Garland pour eux, parce que beaucoup de fans des Cavs, quand on les lit, nous disent qu'en gros, on n'a pas vu Darius Garland cette année, parce qu'il est sur des standards, mais à des années-lumière de ce qu'il fait d'habitude.
Il n'est pas bon.
C'est en termes de diffusion pour le collectif, Donovan Mitchell, c'est un peu muet en passeur, mais ça reste un peu Garland, qui reste un peu le dépositaire de tout ça.
Oui, oui, et Donovan Mitchell est extraordinaire, mais ça n'a jamais été son fort, le partage de balles. Et pour justement, dans les joueurs qui ont autant d'usage que lui, parce que dans l'usage, vous vous en doutez, il est incroyable, hein, il est à 32,3. Et ben dans les passe proportionnel à son usage, il est dans les plus bas. Mais évidemment, ce n'est pas un passeur, ce n'est pas Luka Doncic, ce n'est pas ce type, c'est un combo qui est un énorme scoreur. On en avait parlé dans le podcast des arrières. Donovan Mitchell, c'est un arrière, c'est un scoreur, pas un passeur. Donc ça pose des soucis parce que tu as besoin de Garland pour fluidifier ton jeu collectif.
Et on pourrait limite faire l'espèce de... Alors, j'ai pas assez vu les Cavs cette année. Je parle beaucoup trop dans cet épisode, alors je les ai pas assez vus. On pourrait faire l'espèce de parallèle pour Mobley aussi, qui a été beaucoup un liant défensif. Et le fait est qu'en gros, tu perds ton liant offensif et ton liant défensif des deux côtés que sont Garland et Mobley. Mais parlons d'un joueur clé dont on n'a pas beaucoup parlé encore, Madian. Et je pense que de tous les joueurs clés qui ont été cités, c'est peut-être celui qui... Et le moins, entre guillemets, mis en avant, toute équipe confondue, on va parler de Dean Wade.
Oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai un point sur le sujet de Dean Wade, c'est que il pourrait être mieux exploité. Clairement, il pourrait être mieux exploité par cette équipe parce que on a parlé du Kanyang, t'as Dean Wade dans ton effectif. Pourquoi ? Pourquoi quand tu as Dean Wade ? C'est la solution de rechange, c'est ce qu'il te faut. Parce que finalement, t'as trouvé, notamment en aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a des saisons étonnantes des fois, mais ce que nous fait un Sam Merrill, t'as trouvé un shooter, aussi étonnant que ça puisse paraître, t'en as trouvé un. Donc, utilise-le, parce que tu dois utiliser quelqu'un qui est fort défensivement. L'ADN de ton équipe, c'est d'être fort défensivement. Donc, un George Yang ne fit pas, un George Yang ne va pas, mais t'as quelqu'un qui fit parfaitement. Et pour moi, c'est pour ça que c'est la clé de ces Cavs, c'est que si on continue d'utiliser George Yang comme on continue de l'utiliser, il va se faire cibler, et ça va mal aller, et ta défense ne tiendra pas quand il sera sur le terrain, alors que déjà, on en a parlé, t'as des problèmes pour faire en sorte que cette défense, elle tient debout, et t'as des problèmes de synergie. Donc, utilise celui qui est capable couper les lignes de passe, qui conteste extrêmement bien, qui est très discipliné sur les rotations. Défensivement, il est au point. Et je pense que c'est la ressource que tu as déjà. Parce que d'habitude, on te pose une question, un problème de play-off. Ah tiens, pourquoi lui, il joue tant ? Et puis, généralement, la réponse est ouais, mais tu as vu qu'il y a derrière. Généralement, c'est que tu n'as pas grand-chose et tu n'as pas d'outils. Là, tu as l'outil. Il va falloir l'utiliser parce que ça ne marchera pas sinon, et je suis positif, c'est pas une solution idéale, mais ça comble tes manques et ton identité est défensive. Offensivement, faut espérer que Donovan Mitchell il soit bien et que tu fasses du Donovan Mitchell ball, mais tu ne peux pas laisser les trous d'air défensifs continuer, donc tu dois jouer avec lui.
Si tu pars du principe que, vu l'état défensif actuel, il faut stagger ou en tout cas essayer de faire jouer parfois Allen sans Mobley, parfois Mobley sans Allen, t'es obligé d'avoir Dean Wade. T'es obligé de l'avoir lui parce que c'est quasiment le seul joueur de l'effectif que tu peux mettre dans ce rôle de deuxième intérieur qui est assez grand quand même, Dean Wade, donc qui peut être dans la dissuasion, dans l'aide, donc il est ultra important et c'est pas rien. Quand tu regardes, t'affines un peu les ratings défensifs des Cavs, il est quand même plus ou moins dans toutes les bonnes, tous les bons 5 défensifs des Cavs. Donc, c'est
oui.
Il doit avoir quelque chose, quoi.
Il est dans tous les bons 5 défensifs. Quand on regarde les stats en on-off, il est au sommet, clairement, défensivement. Il fait un... C'est excellent. Toutes les stats défensives montent lorsqu'il est sur le terrain. En fait, c'est l'inverse de Nyang. Tu fais rentrer Nyang, toutes les stats défensives baissent. Tu le fais rentrer lui, toutes les stats défensives augmentent. Moi, au bout d'un moment, c'est juste une question de est-ce que ces Cavs seront capables d'outscorer tous leurs adversaires ? Non. Bah, ton identité, elle est défensive. Il n'y a pas à hésiter là-dessus. C'est que moi, je veux bien qu'on prenne des partis pris de se dire « Moi, je joue tout pour l'attaque et je vais outscorer tout le monde. » Ok. Est-ce que tu as une excellente attaque ? Oui. Ben, vas-y, mon cher, et bonne chance pour ta campagne. Mais si ton identité n'est pas l'attaque, ton focus numéro 1, ça doit être d'être la deuxième meilleure défense de ces playoffs ou la première meilleure défense de ces playoffs. Parce que sans ça, tu passeras pas un tour.
Parce que rappelons qu'on pourrait avoir la critique comme quoi ils ont des bons 5 offensifs, mais là on arrive au playoff où en gros c'est cette théorie que j'aimais beaucoup, cette théorie de Daniel Roux, que je cite tout le temps dans ses prévues, je dois trop l'écouter en ce moment, qui dit qu'en gros quand tu es dans une campagne de playoff, tu rencontres que les exceptions. C'est-à-dire que tu vas rencontrer une top 3 attaque, tu vas rencontrer une top 3 défense, tu risques de rencontrer des équipes qui font des trucs exceptionnels que tu ne vois pas de manière régulière pendant la saison régulière. C'est-à-dire que être juste une bonne attaque et une défense qui n'est plus sur un piédestal, c'est plus du tout suffisant. En fait, parce que tu rencontreras une meilleure défense que la tienne ou une attaque qui mettra à mal ton jeu offensif. Donc, ça ne sera pas assez suffisant.
Et puis, quand on regarde les stats, pré-All-Star Game, qui est la meilleure période que t'as, t'es pas une top attaque, t'es 15e. Post, t'es pas une top attaque du tout, t'es 21e. Enfin, t'es une attaque moyenne de la ligue. Faut se le dire. Par contre, actuellement, malgré toutes tes difficultés depuis le All-Star Game, t'es quand même la 7e défense et avant t'étais la 2e. Donc c'est là où tu peux être au top. Parce que c'est ce qu'on se disait dans pas mal d'épisodes. On écartait des équipes. Pourquoi ils gagneront pas le titre? Bah, c'est pas une top attaque et c'est pas une top défense. Bah, au moins, les Cavs, on sait que certaines versions des Cavs sont une top défense. À partir de là, c'est là où tu dois piocher. Tu sais que tu n'arriveras pas à devenir une top 5 attaque NBA. C'est impossible en aussi peu de temps. Par contre, tu peux redevenir la deuxième meilleure défense.
Eh bien, Madiane, plafond, plancher. Tu remets tes lunettes parce que je pense qu'après un épisode où... c'est un des épisodes des previews où, alors c'est sans doute la fatigue, je vous avoue que je commence là, on commence vraiment à rentrer dans le dur. Je me dis qu'on a parlé de leurs faiblesses, mais je me dis que leurs faiblesses peuvent être solutionnées pas complètement, mais étaient dans certaines parties des points forts de leur effectif. Donc c'est assez paradoxal comme constat. Est-ce que tu les vois passer un tour?
Je pense que ça dépend beaucoup de qui, sur qui tu tombes, mais tu passes pas, à mon avis, les Sixers d'Embiid, tu les passes pas. Tu passes pas le Heat, tu passes pas les Knicks. Dans cet état-là, tu passes pas les Knicks. Ça va être difficile, en fait. Moi, je pense que le plancher, il est rapide, hein. C'est sorti au premier tour, et une sortie au premier tour,
comme
très, très cassante. Ouais. Exactement, comme l'année là, une sortie très cassante et le coach pourra enfin faire parler son génie ailleurs. Après, le plafond, bah ouais, si on est dans la configuration actuelle, bon, 1-3-6, les Pacers, dans leur état actuel, ça gagne à mon avis, ça gagne avec quand même quelques ajustements et le fait que tu redeviennes une défense sérieuse et que tu ne restes pas sur le stretch des 25 derniers matchs, pas que 15, 25 derniers matchs où c'est pas dingue. Donc il va falloir redevenir une très sérieuse défense si jamais tu espères des demi de conf. Par contre, au-delà des demi de conf, tu passes personne. Enfin, les Cavs en finale de conf, je vois pas où ça arrive. Ça me paraît extrêmement compliqué. Parce qu'en soi, théoriquement, bon, ok, c'est peut-être les Bucks de Doc Rivers, n'est-ce pas Ben? Mais t'as trop de limitations.
Est-ce qu'ils ont un avantage de coaching contre les Bucks?
C'est pas beau ce genre de question. Moi, je pense que les coachs s'annulent. À ce niveau-là, les coachs s'annulent. Mais oui, enfin, tu passes pas les Bucks. Et en vrai, enfin, il y a vraiment pas grand monde qui est bon à prendre hein, dans leur état là. Et comme j'ai dit, moi, j'ai revu mon jugement face aux Knicks où je m'étais dit, imaginons c'est 4 contre 5 et c'est les Knicks. Ben en fait, en face il y a Brunson. Et ça, dans l'état actuel, c'est un carnage. C'est vraiment dans l'état actuel de ce que font les Cavs, c'est plus un carnage que ce que je pensais. J'ai trop regardé au moment où j'ai donné mon avis pendant le podcast Zenix la saison globale, parce que notamment ce qui était sûr, c'est que il y a eu des très bons stretches et du coup là je m'étais dit bon cette version là des Cavs les Knicks ils passent pas. C'est pile dans ta faiblesse à mon avis ça va être difficile.
C'est là où ce que je trouve un peu frustrant, on va terminer là-dessus. Je suis d'accord avec toi, pour moi, leur plancher, encore une fois, hein, je le dis à chaque épisode, le plancher, pour moi, c'est où t'arrives en play-off, sauf peut-être pour 2-3 équipes, c'est un premier tour. Leur plafond, c'est une demi-finale de conf, je suis assez d'accord avec tout ce que t'as dit. Ça devient un peu frustrant parce que j'ai l'impression que là, j'en suis à 2-3 épisodes de suite où on me dit que la version qui arrive en play-off, c'est pas la meilleure version de l'équipe en question. Je vais être complètement transparent, je ne sais pas si l'épisode Clipper sera déjà sorti au moment où vous allez écouter cet épisode, probablement pas, mais c'est un peu le constat que fait Gabin par rapport aux Clippers qui ne sont pas la meilleure version des Clippers qu'on aura vu, et on a déjà eu ce genre de réflexion sur d'autres équipes, que ce soit les Pacers,
les Knicks,
c'est pour ça que d'ailleurs j'y pensais, les Knicks avec toi-même Madiane, donc petite frustration parce que quand même il y a beaucoup d'équipes à l'Est hein, qu'on vient de citer qui seront en play-off et qui vont parfois pour certaines échapper au play-in.
Et ce qui est très difficile en plus, c'est que le seeding à l'Est, c'est... Enfin, même à l'Ouest en soi.
Personne veut du 2. À l'Est, c'est vraiment la blague. C'est que personne ne veut du 2.
Non, mais c'est compliqué parce qu'en soi, entre les Cavs et les Sixers, il y a 3 victoires. Il y a 3 victoires entre le 3 et le 8. Donc, en fait, ça va bouger. Ça va bouger d'ici la fin de saison. Et en plus, vu le stretch qu'ils sont en train de nous faire, nos amis les Cavs, et je pense qu'ils vont devoir retourner reposer Donovan Mitchell d'ici la fin de saison, si je devais parier sur une équipe qui reste pas 3, c'est pas les Cavs, hein. 3, les Cavs, ça va être difficile parce que va falloir aussi reposer les forces. Et comme ce qui a été dit, Donovan Mitchell, son genou, ça va nécessiter un long repos. Ils peuvent pas se le permettre avant les playoffs, mais sa situation est pas bonne à notre ami et je pense qu'il pourra pas les aider continuellement jusqu'à la fin de saison et c'est presque triste de les voir tenter des choses alors qu'ils perdent quand même les matchs. Je pense qu'il faut le reposer une bonne fois pour toutes, malheureusement.
Eh bien, une prévue assez morose. Adjane, je ne sais pas quel sera le sentiment de nos auditeurs, mais un peu de tristesse vis-à-vis de ce bilan des Cavs à l'aube d'une campagne de play-off qui pourrait s'annoncer courte et un post-mortem qui en deviendrait fascinant, du coup, parce que on sait que, et les fans de Cleveland ne l'aiment pas quand on le rappelle ça, mais on sait qu'il y a toujours un bruit de fond par rapport à Donovan Mitchell, est-ce qu'il va s'inscrire dans la durée du côté de Cleveland, etc. Donc, à voir. À voir ce qui se passera et ça sera déjà un des post-mortems que je me note quelque part parce qu'il sera sûrement très intéressant celui-ci. En tout cas, Madiane, je te remercie, je te déleste, voilà, tu es libre comme l'air, tu n'as plus à nous parler des Knicks, des Lakers ou des Cavs et je suis en train de me dire que tu fais quand même partie de ceux de l'équipe qui devrait être le plus rapidement délesté, de même regarder les matchs des équipes en question parce que t'as pas le tiercé le plus... Il y a un monde dans lequel t'as plus personne au deuxième tour, quoi. Ou en finale de conf, quoi. C'est possible.
Oui, j'ai personne en finale de conf. Je te rassure, ça devrait pas arriver.
Enfin, bref. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous remercie d'être aussi nombreux, nombreuses à suivre ces previews tous les jours. Nous, on se retrouve dès demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, Podcaster, etc. Sur YouTube également et sur Twitter, nous, comme d'habitude, c'est la formule actuelle. On se retrouve demain. À demain. Salut.
Tchuss.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.